Bonjour, bonsoir, vous êtes sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec. Vous écoutez Voix de Fée, l'émission du collectif Anarchiste La Nuit, en compagnie de Nicolas,
Jenny
et François.
Et cette semaine, on va voir un reportage que François nous a ramené du Rassemblement National étudiant. C'est ça, hein?
C'est en plein ça. Donc, un gros power étudiant. Dans le fond, c'est toutes les associations étudiantes qui se sont rassemblées dans un grand forum pour faire valoir leurs idées, pour parler de peut-être de grèves, de manifestations, de comment lutter contre le gouvernement.
Et donc, tu nous en ramènes un reportage. Il y a Jenny aussi qui a des nouvelles, cette fois pas toutes internationales.
Non, c'est la première nouvelle, c'est l'explosion des plaintes à l'erreur sans emploi canadien, puis aussi de la justice américaine qui a bloqué une loi anti-immigration en Utah.
Pour ma part, pardon, je vais essayer de voir ce qui se cache derrière l'écran de fumée de la montée de la droite au Canada.
Oh là là, gros contrat. On commence tout de suite avec le rassemblement ou on écoute une pièce?
On écoute une pièce, puis après ça, on va faire le rassemblement. Puis après ça, c'est ça. Sur les ondes de Sequoia 88.3 à Québec.
On va écouter une pièce tirée du dernier album de Richard Desjardins. L'album s'intitule « L'Existoire » et la pièce s'intitule « Développement durable ».
Après, je me suis perdu dans les chemins de compagnie, prenant bas par de vue, bel job que je me suis dit. Voilà que je me sorte de là, j'ai appelé la CEPAC. J'avais du temps devant moi, c'est pas que j'ai vidé un lac. Qui c'est que je vois l'Indien, pas de bonne humeur, pantoute, avec les oreilles dans le grain, il me dit tu détruis tout. Quand même que ça sera de ma faute, que c'est que tu veux que ça me fasse. Si c'est pas moi, c'est un autre qui va le faire à ma place. Oui, touche n'est des enfants, le laisse des beaux restants, puis s'ils sont pas contents, le reste l'agonistan. Puis toi, toujours vivant, dis-toi que c'est mieux que rien, puis si t'es pas content, tombe dans le douce et que tu viens. J'pille, 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 ben correct, ben correct. J'pille, 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 j'sais plus quoi faire avec. Pas de problème, ski doux, si doux, quatre roues. J'suis dans le club des bains de main, des fiumes pis bains de la broue. C'est pas dans mes talents d'expliquer l'existence. Ce cerveau a deux temps, ça pense pas, ça dépense. J'suis fier d'être ignorant, pis ça c'est un droit acquis. Pas besoin d'être savant quand t'as une carte de crédit. En fait, moi j'ai deux bacs, un bac vert, un bac bleu. Un pour les faces à claque, dans l'autre pas des quais deux. Pis laisse-moi pas tout seul avec un écolo. Une coupe de claque, sa gueule, pis ça va faire de l'écho. Il t'offra pas une ronde avec ses beaux discours. Il voudra sauver le monde, il va sauver tout court. J'pille, 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 ben correct, ben correct. J'pille, j'pille, j'sais plus quoi faire avec. Le développement durable, c'est pour ma grosse bedaine. Et j'suis même plus capable de me voir le bout de la graine. J'suis dans le port des papiers, ben assis sur mon cul. Puis y'en a rien à chier, la toffe de la FQQ.
Bon sang, on vit en société, on pourra-tu avoir des moyens collectifs pour organiser cette société-là?
Oh, never hit your grandma with a shovel.
Vous écoutez Voix de Fée!
Alors, je me dirige au Rassemblement national étudiant. Qu'est-ce que c'est le Rassemblement national étudiant? C'est une espèce de forum qui a été convoqué par l'AC. Qui est en réaction aux hausses de frais annoncées par le budget Bachand, le budget qui a été remis le 7 mars dernier. Des hausses massives de frais scolarité. Dans le fond, le forum réunit un grand nombre d'associations étudiantes Et même si les quatre grandes associations étudiantes nationales sont présentes, donc la FEUC, la FEC, la C et la TASEC, ils n'ont pas droit de parole. C'est seulement, on donne la parole seulement aux associations de base et on leur laisse toute la place. Donc c'est un lieu de discussion pour échanger, discuter, solidariser, aussi faire un peu d'éducation populaire, je pense. On sent là, que, dans le fond, le mouvement étudiant, l'événement qui se déroule aujourd'hui, le Rassemblement national étudiant, c'est un rare moment d'unité. Mais il semble quand même que c'est encourageant parce qu'apparemment, il n'y aurait pas eu de rencontre de cette nature là depuis 2007. Alors, un grand rassemblement comme ça, ça fait longtemps que ça s'est pas vu. Rassemblement national étudiant. On va aller voir ça.
La chose qui est présentée. Puis, deuxièmement, quand je vois l'amendement qui est proposé, j'ai l'impression que tout le monde qui est positionné pour une gratuité scolaire, nécessairement, est pour l'ensemble de ce...
Je m'appelle Nadia Frenière, je suis du conseil exécutif de la... Bien évidemment, c'est sûr que le Rassemblement national étudiant sert pour nous à voir vraiment quelles sont les forces qui sont prêtes à lutter vraiment pour lutter contre la hausse des frais de scolarité, puis voir jusqu'où on peut aller, avec quelles assos on peut faire des alliances.
OK. C'est de dégager, dans le fond, de distinguer les assos les plus combatives pour pouvoir les rallier à la lutte contre le gouvernement, dans le fond.
Oui, d'une part, c'est sûr, sur la question des moyens d'action, ça va être les assos les plus combatives, mais c'est sûr qu'on veut aussi les associations qui ont les mêmes positions que nous, des positions qui sont évidemment plus radicales que ce qu'on retrouve généralement dans le mouvement étudiant, puis on veut élargir évidemment notre mouvement.
Et jusqu'à maintenant, là, par rapport aux teneurs des discussions qui sont tenues jusqu'à maintenant, il y a eu plusieurs heures de discussion, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois quelque chose qui se dégage de positif?
Ben, c'est sûr que d'un côté un peu moins positif, il y a vraiment des déchirures. On voit vraiment que le mouvement étudiant, ben, c'est pas unanime. Mais c'est sûr que depuis ce matin, on a adopté à l'unanimité une position contre toute hausse de frais de scolarité, ce qui est déjà beaucoup pour nous. Là. C'est sûr que c'est pas un rassemblement qui est totalement neutre, mais à la base, juste de voir qu'il y a vraiment beaucoup d'associations qui sont mobilisées pour ça, ben, c'est déjà un bon côté, un côté positif.
On a l'air de dire, il y a des gens qui ont l'air de mettre beaucoup d'espoir sur ce rassemblement-là, dans le sens que j'ai entendu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait que c'est pas arrivé depuis 2007 que tout le monde se rassemble autour pour faire une rencontre comme ça. J'ai le goût de demander, premièrement, est-ce que c'est pas normal que ce soit si rare que ça, des rencontres comme ça entre étudiants? Deuxièmement, comment ça se fait qu'il n'y a pas tant de... que c'est si difficile comme ça pas nécessairement avoir l'unité, mais de se rassembler simplement autour d'une table?
C'est sûr que ben nous on voit ça comme un mouvement qui est vraiment ponctuel, c'est-à-dire que on pense pas que ça va se répéter plus souvent dans l'année, étant donné que ben il y a pas de coordination de ce mouvement-là, que c'est vraiment rien en tant que tel, là. C'est pas une organisation, fait que ça fait évidemment que ça arrive pas souvent. C'est sûr que ben depuis 2007, on a vu que le mouvement étudiant était sans dire qu'il était mort, pas du tout, mais qu'il était beaucoup plus au ralenti. Il n'y avait pas de période de mobilisation forte, sauf dans quelques endroits isolés. Ce qui fait que là, on parle de vraiment une mobilisation d'envergure pour l'année prochaine, puis on pense que ça va être vraiment nécessaire de se coaliser puis de parler avec les autres associations étudiantes. Puis en ce sens-là, nous, à la SURN, on a justement une position pour évaluer la possibilité d'une coalition élargie, pour rappeler à ça, ce qui fait que dans l'éventualité, on voudrait travailler avec plus d'associations possibles. On pense que c'est important que que les gens dans le mouvement étudiant se parlent, là, au-delà des divisions corporatistes. Fait que c'est pour ça qu'on comptait ça, là.
Ouais, on sent que les fameux déchirements dès 2005, ça revient, c'est même d'ailleurs dans les cahiers là, de préparation, ça revient assez fréquemment. Moi, j'ai rencontré un jeune de Sainte-Foy, du cégep de Sainte-Foy, qui disait, tu sais, 2005, moi, à l'époque, j'étais même pas à cégep, là, tu sais, c'est vraiment derrière moi, tu sais, on va passer à autre chose. C'est vrai que ça fait quand même 6 ans. Est-ce qu'on va passer outre, finalement? Est-ce que tu penses qu'on va passer à travers ça, ces déchirements-là?
Ben j'aimerais l'espérer. C'est la seule chose, c'est que comme j'ai entendu récemment, plus tôt cette semaine, puis c'est quelque chose avec quoi j'étais totalement d'accord, c'est que dans un contexte plus stressant, mettons, là, c'est-à-dire une mobilisation importante, une grève générale limitée, par exemple, on va avoir tendance en tant qu'organisation à aller se réfugier dans nos dans nos réflexes, dans nos historiques corporatifs, si on veut. Puis c'est sûr que c'est un peu inquiétant de voir qu'est-ce que les exécutifs des fédérations étudiantes pourraient faire dans cette situation-là. Puis si le scénario de 2005 se répète, nous, évidemment, c'est pas quelque chose qu'on recherche, là. Ben c'est sûr que si on réussit à être à la même table de négo que la FEC, la FERC et la TASEC, ce serait idéal si on pouvait arriver à vraiment mettre de l'avant nos positions, là.
OK. Puis, bon, il y a des points, on cherche l'unité, il y a des points que, visiblement, là, on n'attendra jamais à l'unité au Rassemblement national étudiant, comme par exemple les questions de la gratuité, même la collaboration ou non avec le gouvernement. Il y en a qui disent on doit collaborer, il y en a d'autres qui disent non. Les points d'unité, peut-être pour toi, ça serait quoi? C'est peut-être que les étudiants pourraient tous s'unir? Derrière quelles idées, derrière quels points?
C'est sûr que ben, ce qui serait assez facile à obtenir comme consensus, c'est ben, pas de hausse après 2012. Après l'hiver 2012, là, ce qui veut dire la hausse de 325$ par année, ben, on la verrait pas du tout. Là. Ça, je pense que ça serait quand même un genre de consensus qu'on pourrait atteindre. C'est le consensus qui est facile à amener comme ça, sauf qu'en table de négociation, ben, c'est avec quoi on va le négocier, puis c'est là que ça devient plus touché, parce que nous, on dit ben, on veut pas qu'il y ait de hausse de frais de scolarité, mais on veut pas qu'il y ait aucun recul non plus. Fait que, c'est à ce moment-là que sur les questions plus stratégiques que ça va se diviser. Sinon, au niveau du consensus, ben on le voit, il n'y a pas de consensus non plus sur la présence du privé en éducation, il n'y a pas de consensus sur les moyens d'action souvent. Là, il y a beaucoup d'associations qui sont ici aujourd'hui pour pousser une éventuelle grève générale unité. Puis en même temps, ben on sait que c'est pas toutes les associations qui vont vouloir s'embarquer dans des moyens comme ça. Là. Il y a beaucoup d'associations, entre autres, de l'Université de Montréal et de Cégep moins militant qui s'en vont pas vers là nécessairement, puis qu'on va essayer de rallier notre mouvement.
La position est donc adoptée à l'unanimité.
J'aimerais rappeler aussi qu'il y a eu des hausses qui ont été annoncées avant ça. Des hausses quand même qui ont augmenté la facture étudiante. Je voulais savoir si l'Assemblée voulait se positionner aussi contre ces hausses-là, donc revenir au niveau d'avant 2017.
Valérie Plante, l'évêque de l'AGECFIG, donc l'assaut de Garneau.
Donc, après quelques heures laborieuses au sein du Rassemblement national étudiant, c'est quoi les observations que tu as pu dégager?
Pour l'instant, en fait, on a réussi à obtenir unanimité par rapport au fait qu'on est contre la hausse des frais de scolarité. Là. Je pense que pour l'instant, c'est pas mal le seul consensus qu'on a eu tous ensemble. Là. C'est assez difficile les négos là, pour l'instant. Là,
c'est sur quel point?
Là, pour l'instant, on a discuté de un petit peu... Qu'est-ce qui était non négociable, en fond, là, quand la hausse des frais n'est pas négociable, mais à quel point, là, qu'est-ce qu'on considère qui n'est pas une alternative? On n'a pas encore négocié qu'est-ce qui est, selon nous, une alternative. En fait, on est encore en train de débattre là-dessus, donc c'est assez laborieux encore, là. Je pense qu'on va arriver au moyen d'action, ça va être plus clair, là. La manif conjointe a l'air d'être souhaitée pour tout le monde, là. C'est les balises qu'on a la misère à mettre en place un petit peu, là.
La manif conjointe, la grève?
La grève aussi, ça a l'air d'être un consensus qui est assez présent là, pour saint tout le monde là, c'est un petit peu aussi comme je disais, le plan d'action, puis obtenir la faveur du public aussi là, qui a l'air assez intense là, l'opinion populaire a l'air d'être au cœur des préoccupations en général là.
Toi, tu es venu ici peut-être avec un mandat de l'association étudiante. Est-ce que c'est quoi les points que tu aimerais obtenir d'ici la fin du rassemblement?
Nous ici à Garneau, on est indépendant là. C'est clair. Donc notre but, c'est un petit peu de pousser pour une coalition nationale là, assez faite. Là. Je sais pas jusqu'à quel point ça va passer, là, mais on arrive avec cette proposition là.
Non, mais je pense qu'il y avait des gens qui avaient l'air de vouloir que justement l'espèce de débat assez contre la FEC et les scindements au niveau du mouvement étudiant disparaissent. Donc sans avoir de proposition là, dans les discussions, je pense que les gens veulent qu'on s'unisse, puis d'attitude, ça va faire les chicanes de corps et de sang.
Chose que j'aimerais apporter un point. Depuis 2017, le mouvement étudiant a commencé à s'organiser. Et je pense que c'est un peu en réaction à deux budgets de suite antisociaux qu'on se retrouve ici aujourd'hui ensemble, réunis.
La présence homme-femme. Donc, vous savez ce que c'est? Les grands rassemblements étudiants, les gens prennent la parole, les genres sont très mal représentés, disons-le comme ça. Par exemple, ne serait-ce qu'il y avait quand même une sensibilité dans les documents. Il fallait au moins avoir une femme déléguée pour participer au rassemblement. Il y avait un effort qui avait été fait pour assurer une plus grande présence des femmes. Malgré tout, la présence des hommes est une et demie à deux fois supérieure à celle des femmes. Et aussi, les tours de parole sont par alternance hommes-femmes. Cependant, il y a environ 6 interventions sur 7 que c'est des hommes qui prennent la parole. Alors, on est loin de la parité homme-femme, d'une égalité là, parfaite.
Julien Boucher, étudiant en droit à l'Université de Montréal. Il y a des propositions qui ont été adoptées, pas à l'unanimité, mais avec quand même des majorités acceptables. Puis bon, ultimement, c'est ce rassemblement-là pas de pouvoir décisionnel sur aucune association étudiante. Tout le monde va ramener ça chez eux, c'est pour savoir si son asso accepte ça. Mais moi, je crois, en tout cas, moi, je suis optimiste. Là. Je crois que ça se passe bien, puis je crois que ça, on peut s'entendre sur des bases. Parce que l'objectif non plus, c'est pas de s'entendre de A à Z sur ça va être quoi les méthodes. Puis c'est pas un détail, là. C'est des ententes pour être capable de collaborer plus au jour le jour dans le courant de la campagne.
Sur quel point penses-tu que vous allez pouvoir parvenir peut-être à une unité avec toutes les associations étudiantes?
Mais moi, j'anticipe. On risque de discuter tout à l'heure des moyens d'action. J'anticipe qu'on va réussir à s'entendre parce que c'est souvent un point qui est litigieux dans le sein du mouvement étudiant. Je crois qu'on réussira à s'entendre sur la diversité des moyens d'action, c'est-à-dire il y a des actions plus radicales qui se font, il y a des actions moins qui se font, juste de publiquement ne pas dénoncer ces actions-là puis juste accepter la diversité des moyens, des tactiques des autres organisations. Ça, je crois que c'est fondamental. Je crois qu'on va réussir à s'entendre là-dessus.
Il y a des questions là, quand même qui sont moins évidentes, là, comme par exemple, il y a des gens qui proposent d'ouvrir la collaboration avec le gouvernement, d'ouvrir des discussions avec le gouvernement. Il y a d'autres qui sont opposés à ça. Toi, personnellement, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait être possible, là, dans le sein du rassemblement étudiant, de statuer, nous, on négociera pas avec le gouvernement?
Bien, je crois pas, parce que même des franges ou étudiants qui ont toujours été plus réfractaires à la négociation avec le gouvernement veulent négocier. Il y a quelque chose qui va probablement être proposé tout à l'heure, qui est dans le cahier, qui est qu'il appelle ça une clause de solidarité, c'est-à-dire que faut qu'il y ait toutes les associations nationales autour de la table ou aucune. T'sais. Puis ça, à la limite, c'est débattable. Je ne sais même pas si je suis pour ou si je suis contre. Sauf qu'ultimement, si les gens qui ont mis ça de l'avant veulent ça, ben, je crois qu'ils veulent négocier. Puis je crois que c'est incontournable. Négocier dans le sens de s'asseoir autour de la table puis d'enclencher un bras de fer avec le gouvernement en parallèle de faire des actions et des manifestations. Mais, tu sais, négocier dans ce sens-là, pas dans le sens de « OK, on accepte la hausse, mais ça, je crois qu'il s'est ressorti clairement tantôt, on négocie pas la hausse. »
Je serais content de sortir avec quoi du Rassemblement national étudiant dimanche, là, pour que tu aies le gros sourire d'en face. C'est quoi que tu aimerais obtenir?
Moi, en tant qu'étudiant, moi, ce que je voudrais obtenir, c'est des bases de collaboration qui sont suffisamment larges pour être interprétées ou pour surtout être adaptées au courant de la campagne, mais des bases de collaboration quand même. Pour juste qu'on ait ces bases-là pour être capable de mieux s'entendre dans le déroulement de la campagne.
Faut pas oublier que le PQ, c'est quoi la position du PQ par rapport au gel des frais scolarité? C'est un gel jusqu'à la tenue. Alors, ça met sur l'éducation. Et qu'est-ce qui va passer après? Sans doute encore une espèce de impôt post-universitaire et autres.
Il y a quand même eu des calls assez louches lors du rassemblement, là, des trucs qu'on ne s'attendrait pas de la bouche d'étudiants. Mais ça prouve, entre autres, que l'unité étudiante est pas facile à atteindre. Lors des débats, des discussions, j'ai entendu l'éducation n'est pas un droit. Donc, il y a un étudiant qui a soulevé que l'éducation n'est pas un droit. C'est quand même curieux. Et il y a aussi eu un autre événement louche. C'est une proposition qui était de stopper l'alternance homme-femme dans les prises de parole. Donc, cette proposition-là a été battue, mais quand même, ça prouve que, disons que l'égalité entre les hommes et les femmes là, est encore loin d'être acquise. Là.
Mon nom est Richard Hinton, et je suis un représentant du GSA, Graduate Students Association, qui représente les étudiants de deuxième et troisième cycle à Concordia. Avec mes collègues, on est tous ici pour manifester... notre colère avec le gouvernement, on est surtout concerné par la transformation de des mutations dans l'université, c'est-à-dire nous autres à Concordia, on a vu deux présidents qui ont été envoyés et cinq vice-présidents dans les dix dernières années. Ça nous a coûté des millions de dollars. Et puis là, on nous dit qu'il n'y a plus d'argent pour l'éducation. À l'avenir, il va falloir faire un grand travail pour sensibiliser les nouveaux arrivants, souvent qui viennent d'hors Québec. Alors, au moment de mobiliser ces gens, on a un grand travail à faire de prendre les informations qui sont en circulation au Québec en français, puis les amener à ces étudiants qui sont souvent anglophones et qui souvent ne sont pas en contact directement avec le mouvement national au Québec. Et ce, pour être prêt à se mobiliser aussitôt que l'hiver de 2012. Si jamais il y a une grève générale.
Ceux qui viennent du reste du Canada et ceux aussi qui viennent de l'extérieur du Canada, est-ce qu'ils ont une situation particulière, ces gens-là? Est-ce qu'ils vivent une situation particulière face aux hausses de frais?
Ça, c'est certain. Surtout les étudiants qui viennent d'outre-mer, les étudiants internationaux, ils se trouvent avec des informations qui leur disent bon, vous allez payer tel montant avant qu'ils arrivent au Canada, mais en arrivant ici, quand ils vont pour payer leurs frais de scolarité, ils trouvent que finalement, il faut payer beaucoup plus que ce qu'on leur a dit sur le site Internet ou quoi que ce soit. Ça a causé beaucoup de confusion et beaucoup de déception parmi ces étudiants qui étaient d'accord pour payer un tel montant parce que déjà venir dans un autre pays, ça coûte beaucoup d'argent. Mais là, ils deviennent des vaches à lait pour pour l'université et c'est très injuste pour eux. Aussi, les étudiants internationaux aussi que eux, ils payent déjà beaucoup plus que les étudiants qui viennent de Québec. Et les étudiants du reste du Canada aussi, ils payent plus que les étudiants de Québec.
Je suis tout à fait d'accord avec l'intervention que tu viens de faire. J'aimerais apporter un point. Depuis 2017,
pour conclure, quelques notes sur le grand Rassemblement national étudiant. Donc, c'est assez le fun de voir que les étudiants défendent leurs intérêts de classe. Puis en même temps, il faut le dire, hein, c'est aussi les intérêts de l'ensemble de la population. Et d'ailleurs, les étudiants en sont conscients. Il y a eu une proposition, par exemple, qui a été amendée pour inclure dans la revendication du service public les objectifs des associations étudiantes là, étaient différents selon la nature, par exemple. L'AC, l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, leur but, c'était de voir avec quelles associations étudiantes ils pourraient avoir une unité, lesquelles qui se rapprochaient le plus de leurs propres idées, savoir avec lesquelles ils pourraient se rapprocher pour lutter plus efficacement. Et c'était aussi de faire un peu de discussion populaire et probablement d'identifier le pôle combatif du milieu étudiant. Ça, c'est pour l'AC. Pour la FEUC, la FEC, leur objectif est plutôt de trouver les grands points d'unité puis d'essayer d'accorder tous les étudiants ensemble avec les difficultés que ça comporte. Donc voilà, c'était un reportage de François.
On attaque en général.
Et vous êtes de retour à Voix de Fait. On va écouter une pièce.
Ouais, c'est une pièce que j'ai trouvée dans mes boules à mute métalliques. C'est Hypocrites de Korn. C'est une tune qui dénonce en fait le double discours de l'Église catholique.
Et c'est parti.
Thank you.
Et vous êtes de retour à Voix de Fait, l'émission du collectif anarchiste La Nuit sur les ondes de CKIA, et c'est l'heure de parler d'assurance emploi.
Oh, je pensais pas que c'était tout de suite mon tour. Oh, vidéo. Bon, c'est ça, c'est les nombres de plaintes au sujet de régime d'assurance emploi ou l'assurance chômage. Ça a explosé au Canada.
Il n'y a plus d'assurance chômage, il n'y a pas de chômage.
Bon, OK, assurance emploi d'abord. Qui ont explosé au Canada depuis 2006. Ces plaintes-là, ils ont été multipliées par 10 depuis 5 ans, en passant de 444 en 2006-2007 à 4123 en 2011-2010-2011. C'est que révèle à l'avis du gouvernement fédéral que la presse a obtenu en vertu de la loi sur l'accès à l'information. Le gouvernement, de son côté, il donne deux raisons pour expliquer cette hausse-là, la hausse des plaintes. Ben, la crise économique, d'une part, qui a occasionné une augmentation du nombre de demandes de prestations, parce que beaucoup de monde perdait le job, et la création d'un nouveau bureau des plaintes au gouvernement fédéral en 2005, le bureau de satisfaction des clients. Ouais, c'est ça le vrai nom.
Les clients.
Avant la création du bureau de satisfaction des clients en 2005, il n'y avait pas de moyen officiel de porter plainte. Cependant, les clients pouvaient discuter avec un agent par l'entremise du service d'information téléphonique de l'assurance emploi, à ton président au ministère des Ressources humaines. Mais de son côté, Pierre Séry, il prend ses explications avec un grain de sel. Je suis coordonnateur du comité chômage de Montréal, porte-parole du Conseil national des chômeurs. Je m'active dans plusieurs milieux depuis une trentaine d'années. Puis il dit que jamais entendu parler de ce bureau de satisfaction. Il dit que c'est quand même un drôle de nom. Selon lui, ces chiffres sont loin de représenter l'ampleur du mécontentement à l'égard du système. En 2008-2009, 2,4 millions de demandes de prestations ont été présentées. Cette même année, il y a eu 2470 plaintes, autant dire qu'il n'y a pas de problème. Il n'entend pas pour autant recommander aux santé de chômeurs qui lui demandent conseil chaque année de porter plainte au bureau de satisfaction. Il dit que ça ne sert à rien. Retard, labyrinthe bureaucratique, manque de respect réel au perçu de la part des fonctionnaires. Les histoires d'horreur sont nombreuses et les gens qui ont parcouru un véritable chemin de croix ne sont pas difficiles à trouver, selon M. Séry. Il y avait Patricia Martinez, secrétaire de Laval, qui a vu ses prestations d'assurance emploi être interrompues après que le gouvernement ait appris qu'elle avait hérité de la garde des cinq enfants de son frère, en plus des deux qu'elle avait déjà. Fait qu'elle s'est ramassée que 7 enfants à ses bras, là. D'un coup sec. 25 de plus, ça, la 97. La raison de tes circonstances, c'est possible de chercher un emploi encore moins travailler. Fait que tu peux pas retrouver un job, on le coupe l'échec, tu sais. Bien sûr.
Hein?
Ce qui fait penser à la situation de Nietzsche, l'État est un monstre froid. L'Ottawa a même réclamé le remboursement des sommes reçues par cette mère seule pendant plusieurs mois. Elle a gagné sa cause de mon parti, mais là, il faut qu'elle attende d'être dans un processus d'appel pour renverser le reste de la décision du gouvernement. Donc, c'est ça. David Marchand, un Montréalais, a dû attendre 3 mois de novembre à février dernier avant de recevoir ses prestations. De délai de 48 heures en délai de 48 heures, il s'est finalement plaint auprès de son député local. Nos démocrates, Thomas Mulcahy, coïncidence, sont aussi réglés peu de temps après. Souvent, c'est ça que ça arrive quand ça bloque, tu plombes député, puis il brosse les peu, il brosse ça, puis je sais pas, le monde qui travaille là, il finit
par. Un petit coup de baguette magique.
Ah, c'est ça.
Non, ben, en général, les députés fédéraux, quand ils connaissent un peu leur job, ils savent aussi où aller. C'est vrai que face à la machine bureaucratique, là, c'est soit un groupe de défense de droit très chevronné comme le comité chômage, ou non, un député. Là.
Puis, selon M. Marshall, c'est vrai que le Canada est tellement incompétent et l'incombe contribuable de régler mal leur dossier, loin des délais de 28 jours qu'on fait miroiter, alors que nous, les chômeurs, devrions mettre toute notre énergie sur un emploi, là, de plus être occupés à se trouver tout comme bouffé, t'sais. Et sans chemise, groupe de défense des droits des chômeurs, dont fait partie Pierre Séry, a demandé aux partis politiques durant la dernière campagne électorale de s'engager à améliorer le système après les élections. Un chômeur sur deux n'a pas accès au système, faut que ça change, disait l'une des affiches. Donc, c'est pas si il y en avait un qui avait remarqué, là, c'était sur les poteaux, puis les affiches jaunes et noires, là. Fait que, en tout cas, il y en a eu pas mal, quelques-uns dans la ville. Mm-hmm. Puis, la situation a été particulièrement corsée à de la crise économique en 2009, avec un nombre accru de demandes qui a forcé Ottawa à embaucher plusieurs employés temporaires pour faire face à la demande. Mais après que la crise économique s'est réglée, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont pogné ce monde-là, ils ont tout crissé dehors. Manifestement, on est retombé dans des grands problèmes des délais administratifs, comme M. Séry. Il contredit ainsi le ministère des Ressources humaines qui a toutefois reçu de détailler les plaintes reçues malgré les demandes répétées de la presse. Donc, ils veulent pas reconnaître leurs erreurs, faut croire. Un autre exemple d'imbécilité de l'État, c'est une cour fédérale américaine qui a suspendu l'avordi de l'application d'une loi controversée sur l'immigration dans l'Utah qui s'inspirait d'un texte semblable voté l'an dernier d'Arizona, qui est l'État voisin. Ça a été annoncé par la justice fédérale. Le juge fédéral Clark Wadoops a rendu cette décision quelques heures après l'entrée en vigueur de la loi qui autorise la police à vérifier le statut migratoire de toute personne arrêtée, une procédure interdite par l'État fédéral qui se réserve ce droit aux agents de l'immigration. Donc, selon cette loi-là, le policier aurait pu voir une personne de race noire ou latino dans la rue et montrer des papiers. Sauf qu'une raison de même. Donc, le texte est suspendu jusqu'à nouvel ordre de déclarer juge dans sa décision en réponse à une plainte déposée par la puissante organisation de défense des libertés des droits civils, ACLU. Dans l'Arizona, où une loi similaire a été votée l'an dernier, soulevant une vague de protestations, la justice a également suspendu l'application du texte. La gouverneure républicaine de l'État a annoncé qu'elle allait porter l'affaire devant la Cour suprême des États-Unis. La décision du juge Froidos intervient alors que le président Obama, en déplaçant mardi à la frontière mexicaine, a appelé une nouvelle fois à une réforme migratoire à 10 mois d'une élection présidentielle où le vote latino serait déterminant. Donc, il y a peut-être deux dossiers à suivre.
Ça, bon.
Super. Donc, on va écouter une pièce. Juste pour toi, Nicolas, parce que c'est un groupe que t'aimes beaucoup, Mise en demeure, on va écouter la pièce Le sauveur du peuple, en l'hommage à un gars qu'on aime beaucoup, Lucien Bouchard.
Oh!
On écoute Voix de fait.
Je vous salue, Marie, le Seigneur, et mon berger, et Lulu, et sa lumière. Lulu! Lulu, la lumière, qui nous guide vers une lucidité, vers un chemin déjà tracé. Lulu, tiens ma main, et montre-moi le droit chemin.
Le droit de vie et de mort sur autrui étend son empire par-delà les enfants à naître et menace désormais aux malades les plus vulnérables.
Et de retour à votre fait sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. D'habitude, les élections, c'est plate, puis on n'en parle pas. Puis il me semble que depuis le 2000, calice, tout le monde parle des élections et du résultat. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de discussions politiques sur le fédéral avec du monde. Ça arrive qu'on parle du maire, ça arrive qu'on parle du Québec, du Canada, puis d'Ottawa, c'est rare en maudit.
Ça arrive souvent qu'on parle de politique en général.
Oui, mais de politique fédérale, c'est rare. Je n'avais jamais autant entendu parler. Puis, je dois vous dire que j'ai beaucoup d'amis qui sont très déprimés, très fâchés, et qui se demandent qu'est-ce qu'on va faire pour les 4 prochaines années, d'un côté. Et de l'autre côté, beaucoup de nationalistes qui viennent de souvenir qu'ils sont nationalistes.
Ben oui.
Je sais pas si vous avez remarqué, en pleine campagne électorale, il est arrivé quelque chose d'un peu particulier. Le Bloc québécois, après 15 ans d'amnésie, s'est soudainement rappelé qu'il est indépendantiste et nationaliste. Puis ben, comme ça arrive souvent avec les gens qui ont oublié longtemps, ben... ils se sont juste rappelés de certains bouts, hein? Un peu plus, puis ils nous parlaient, tu sais, ils nous ont parlé, quoi, ils nous ont parlé de la Constitution en 1981, ils nous ont parlé de l'accord de Charlottetown, de l'accord de Meech, de la loi 101, un peu plus, ils nous parlaient des plaines d'Abraham, puis de la rébellion des patriotes, de Louis Riel, puis de la crise de la conscription. C'est sûrement à cause de NPD, la crise de la conscription, d'ailleurs, hein, faut se le dire. Mm-hmm. Mais bon, c'est ça, évidemment, tous ces gens qui soudainement se redécouvrent indépendantistes, il paraît que le PQ a vendu 500 cartes de membres dans les 4 jours suivants le résultat de l'élection, juste sur son site internet. Tous ces gens-là, évidemment, ils se rappellent pas en 82 la trahison. Tu sais, il y a eu la trahison, la nuit des longs couteaux en 1981, avec les premiers ministres des provinces qui ont trahi René Lévesque. Puis ben, en 1982, il y a René Lévesque qui a trahi les chefs syndicaux. Et les 400 000 employés de l'État, on se souvient pas non plus, évidemment, des réponses de Parizeau. Grand progressiste devant l'éternel qui donnait quoi? 10 cents dans la marche mondiale des femmes comme hausse du salaire minimum? Et l'économie sociale. Et on se souvient pas non plus, évidemment, des gels de frais de scolarité, tout ça. On se souvient pas finalement que le Parti québécois n'a rien de progressiste. Donc, voilà. Et que le Bloc est finalement... Ben moi, en tout cas, bref, ce que ça me ramène, c'est pourquoi, finalement, je suis plus nationaliste. Pourquoi je suis devenu antinationaliste. On a vu ressortir toute l'arrogance, tout le... Bientôt, là, je m'attends à ce que y ait des jeunes à Montréal qui se mettent à hurler des oreilles du monde. « Parle français! » Comme c'était le cas... Je ne sais pas si vous avez vécu l'époque du Lac Meech et de Charlottetown, mais moi, je me souviens de ça. Donc... si on revient à ce qui s'est passé le 2 mai, on en a encore pour longtemps à analyser, mais on a des camarades. En fait, j'ai deux trucs que je suis allé chercher sur Internet qui remettent ça en perspective, qui essayent de voir comment on appelle ça, les hard facts, les trucs factuels, en fait, qu'il y a derrière les résultats électoraux, pour essayer de départager, décanter tout ça un peu. Évidemment, ça reste aussi valable que tous les trucs subjectifs et psychologisants qu'on entend ailleurs.
Il y a beaucoup de soi-disant analystes qui s'interrogent puis qui essaient d'interpréter les résultats.
Ouais, c'est ça. Donc, nous allons y aller de notre interprétation matérialiste. Puis la première chose qu'on peut se poser comme question, c'est le fait majeur de cette élection-là, c'est quoi? Est-ce que c'est la montée de la droite et l'arrivée d'un gouvernement conservateur? Est-ce que c'est le fait que, malgré des enjeux, ma foi, majeurs et une très grande campagne, il y a quand même eu autant d'abstention que la fois d'avant? Est-ce que c'est la montée du NPD? Est-ce que c'est la distinction entre le Québec et le Canada? Puis, ben, c'est ça. Si on regarde ça de plus près, on se rend compte que c'est rien de ça. D'une part, la montée de la droite, il faudrait voir quelle montée de la droite. Saluons d'ailleurs les conservateurs qui sont fait virer dans la région de Québec. On n'est pas malheureux de ça. Si on regarde en chiffres absolus, en fait, le Parti conservateur, grosso modo, il plafonne depuis 20 ans au Canada. Puis on fait l'évaluation qu'une montée de la droite parce que Il y a une majorité qui a été donnée à Stephen Harper pour la première fois en 5 ans. Et en fait, c'est une évaluation qui est erronée. Il semble que il n'y a pas tant monté de la droite qu'écrasement, finalement, du Parti libéral du Canada. Et c'est une évaluation qui est dangereuse parce que ça amène des perspectives défaitistes, fatalistes, attentistes et qui nous amène finalement à se faire avoir parce que effectivement ils ont la majorité parlementaire. Donc, la force du Parti conservateur, c'est un pétard mouillé. Et juste pour vous donner une idée, on a un camarade qui est allé chercher les appuis au Parti de la droite canadienne entre 1993 et 2001. Et on se rend compte je vois pas toutes les données, là, mais en 1993, il y avait 35,6% d'appui. En 1997, 38,19. Puis là, ça varie tranquillement pas vite pour arriver à 39,62 en 2011. Donc, il y a comme une variation de quelques points de pourcentage. Et si on va... Ça, c'est quelque chose qui est quand même... C'est à peu près la même chose, là, le pourcentage obtenu en 2011, en 2006, en 2008. Puis c'est le même que celui obtenu par les deux partis de droite des années 90. Donc, si on tient compte, en fait, du très faible taux de participation, cet appui-là, ça revient à dire qu'il y a une personne sur quatre au Canada qui appuie les conservateurs, une sur dix au Québec, ce qui est un poids électoral assez faible. Puis dans les faits, en termes de pourcentage là, de la population, là, on parle, tu sais, le 39,62% de 2011, dans les faits, si on le ramène à la population en âge de voter, donc aux gens qui sont inscrits sur liste électorale, au Canada, ça fait 24%, puis au Québec, ça fait 10% déjà. Donc, l'appui est à relativiser. Puis ben c'est ça, la distorsion qu'il y a entre cet appui qui est très stable et la place au pouvoir s'explique qu'à cause des mécanismes là, du scrutin qui font que la personne qui a le plus de votes, finalement, gagne l'élection et se retrouve au Parlement. Donc, on voit là que des fluctuations minimes de pourcentage de vote font fluctuer beaucoup, beaucoup, beaucoup le nombre de sièges. Juste pour vous donner une idée, là, en l'an 2000, la droite avait eu 37,68% des votes, puis avait obtenu 99 sièges. Puis en 2011, donc 11 ans plus tard finalement, ils ont eu juste 2% de plus, mais le nombre de sièges s'est ramassé à 167. Donc c'est quand même ça. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que dans les faits, les différentes familles politiques sur 75 ans, en fait, ça bouge très peu finalement. Et donc, voilà. Ça, c'était pour la montée de la droite. Il semble qu'il n'y a pas, dans les faits, montée majeure de l'appui à la droite.
Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de gens qui votent à droite. C'est juste que la façon que c'est fait,
la répartition des votes étant différente, ça donne des résultats différents. Puis comme on l'avait dit d'ailleurs, le vote stratégique, là, ça ne marche pas dans la mesure où c'est comme comment qu'on dit ça, une boîte de Pandore. On n'en a aucune idée, finalement, qu'est-ce qui va sortir des urnes. Ah, parce qu'on ne peut pas anticiper ce que nos voisins vont voter.
Ouais, c'est ça.
Et donc, l'autre chose qu'il y a, là, ça, je suis allé chercher ça sur un site canadien-anglais qui a fait une analyse pan-canadienne. Puis eux autres, ils disent, bon, il y a plusieurs interprétations qu'on peut avoir des résultats des élections. Puis eux autres aussi sont allés chercher les chiffres de vote. Et ils se rendent compte, en fait, eux autres, ils ont essayé de comparer, ils se sont amusés. Ils disent, conservateurs libéraux, finalement, c'est les partis des corporations puis du capitalisme. Donc, ils ont combiné le vote des deux, puis ils ont opposé au vote NPD à long terme et à court terme entre les deux élections. Puis ils disent qu'en faisant ça, il y a une donnée complètement différente qui émerge, c'est le fait que le vote corporatiste, finalement, a tendance à s'éroder et que le vote du NPD monte. Donc ça, c'est une affaire. En fait, eux, ils disent que ça pointe vers des changements dans les consciences des gens et que si ça peut se jumeler avec des mouvements à l'extérieur, en fait, du Parlement, ça pourrait être intéressant, ça pourrait annoncer quelque chose d'intéressant. Donc, premièrement, bon, c'est ça, les conservateurs ont augmenté leur vote seulement par 2%. Et ils disent que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, même si les votes du NPD ont été très importants au Québec, il faut pas penser que c'est une vague qui était juste québécoise. Il y a aussi des nouveaux sièges qui ont été cherchés partout au pays, que ce soit en Colombie-Britannique, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Puis, dans les faits, c'est ça. Sur 103 sièges, il y en a quand même 45 qui viennent d'ailleurs au Canada et c'est réparti un peu partout. Et donc, de fait, l'opposition officielle vient d'un peu partout. L'autre chose qui voulait ramener, c'est le fait qu'en regardant sur plusieurs élections, ils se sont rendus compte qu'il y a deux moments précis où le vote NPD a boosté, puis a comme monté, puis après ça, ça a été un plateau. C'est à l'élection de 2004, qui arrive après la vague de lutte anti-mondialisation et la vague de lutte anti-guerre. Donc, ils pensent que le NPD a gagné 1 million de votes à ce moment-là au Canada. Et cette année, donc ils sont passés à 4 % et cette année où, en fait, c'est après la crise économique et les révolutions en Afrique du Nord et dans le Moyen-Orient, où là, tout d'un coup, le NPD est allé chercher 2 millions de voix de plus. Donc, ils disent qu'il y a comme un lien entre ce qui se passe en dehors. Eux, ils pensent que le lien est plus fort entre ce qui se passe en dehors du Parlement, qu'est-ce qui se passe dans le Parlement pour expliquer les changements au niveau électoral.
Il y a un certain recul aussi sur les résultats que tu donnes, là, sur ce que les explications que tu donnes, il y a un recul, puis une plus grande mise en contexte là, qui est plus intéressante que ce qu'on entend d'habitude.
Et eux, ce qu'ils soulignent, qui est vraiment intéressant à mon avis, dans la dernière décennie, le vote combiné des partis pro-capitalistes au Parlement est passé de 78 à 58 %. Donc le vote combiné libéral-conservateur a chuté de 20 %. Donc, c'est quand même quelque chose qui est intéressant. Et là, ben c'est ça. Eux autres, ce qu'ils disent, c'est que la carte électorale, en fait, ça représente juste ce qui se passe aux élections, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe entre les élections. Puis ça arrive en dehors du Parlement. Puis ils disent que le fait des résultats électoraux est distorsionné parce que justement, il n'y a pas de proportionnel et tout. Puis on peut pas voir, en fait, c'est quoi les grandes tendances lourdes. Puis en regardant les tendances lourdes en 2008-2011, ils se sont rendus compte que le NPD avait augmenté son niveau d'appui dans 293 des 308 circonscriptions au Canada. Il y avait le même nombre d'appuis dans 10, puis on avait perdu dans 5. Non seulement ça, mais en plus, en ayant gagné 103 sièges, il faut savoir aussi que le NPD est arrivé deuxième dans 110 autres circonscriptions. Donc, il y a quand même quelque chose. Et ça inclut ça, la circonscription du premier ministre conservateur et du ministre de l'Immigration, où le NPD quand même a cherché 2500 votes de plus en arrivant en deuxième place. Évidemment, ils sont très loin de gagner, là, on s'entend, mais quand même. Donc, pour eux, c'est le fait d'après cette analyse-là, en fait, la majorité d'Harper, c'est pas dû à une montée de la droite, c'est dû à un écrasement du Parti libéral, puis qu'en fait, ce qu'on peut voir dans les chiffres, c'est une montée de la gauche social-démocrate. Bon, évidemment, faut se poser la question, est-ce que les gens, ils votent pour Layton, mais est-ce qu'ils appuient les idées de Layton? Et Layton a-t-il des idées? C'est des questions qu'on peut se poser qui sont pas toujours évidentes. Mais quand même, moi, je pense que effectivement c'est pas vraiment à gauche, mais je regardais dans les commentaires de cette analyse-là, puis on disait, oui, le NPD n'est pas vraiment à gauche, mais ça n'a pas d'importance qu'il soit pas à gauche. Ce qui est important, c'est la perception populaire. On disait, les gens, ils pensent qu'il est à gauche. Ils sont prêts à voter pour quelque chose qu'ils pensent qu'il est à gauche. Qu'il soit à gauche ou pas à gauche, pas important. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire dans la rue avec après. Et donc voilà. Il y a il faut quand même garder à l'esprit, même si on regarde ça, bon, la montée de la droite n'est pas si pire que ça, il y a une montée de la gauche et tout, il faut quand même voir qu'il y a Harper a quand même une majorité au Parlement, mais et donc il peut faire des choses, mais il faut toujours se rappeler qu'en dehors du Parlement, il est minoritaire. Que donc, il ne peut pas nécessairement faire tout ce qu'il veut. Il faut faire confiance aux gens, il faut faire confiance au mouvement, il faut faire confiance à notre capacité de résistance. C'est sûr qu'on a du pain sur la planche, c'est sûr que ce ne sera pas facile, mais je pense qu'on n'est pas complètement
démunis.
C'est à ça que je voulais ramener par rapport à ça. Est-ce qu'on va en musique, puis je reviens avec mes plugs, ou bien est-ce qu'on fait les plugs maintenant?
On a le temps d'écouter une pièce.
Écoutons une pièce.
C'était pas mal plus intéressant qu'entendre parler de Ruth Ellen Brosseau. Alors, on va écouter une pièce de Pierre Fournier. C'est la pièce « L'avion dans le ciel », Pierre Fournier, qui est organisateur communautaire dans un CLSC. C'est pas top côté musical, mais c'est quand même intéressant les paroles.
C'est pas winner, ça, de commencer à mettre une tune en disant « c'est pas top ».
C'est pas grave. On t'a sécoyé ici.
Passer un avion qui traverse le ciel, à ses copains je eus de la joie dans les yeux, dit mon père, conduit cet avion dans le ciel, mon père conduit cet avion dans le ciel, mon père conduit cet avion dans le ciel.
petit bout de chou frisé sur ses genoux s'élevait. Dis mon père, tu sais, c'est un fondeur d'acier. Mon père fait fondre l'acier et le plomb. C'est pour ensuite fabriquer des avions. C'est pour ensuite fabriquer des avions. C'est pour ensuite fabriquer des avions. Tu n'as pas peur, pas plus que moi j'ai peur, parce que mon père est un très bon fondeur. À l'endroit où ils vont, du haut d'une tour, ils dirigent les avions. Mon père ramène ton père à la maison. Mon père ramène ton père à la maison. Mon père ramène ton père à la maison. Dis à ta mère de ne pas avoir peur, parce que mon père est un bon contrôleur.
Bonjour, vous êtes toujours sur les ondes de CKD 88.3 à Québec, vous écoutez Voix de Fait, le son du collectif Anarchiste la nuit. Donc, c'est l'heure du calendrier, comme il va appeler les plugs, et on en a deux. D'abord, jeudi, le 12 mai, il va y avoir un forum urbain à la Bibliothèque Saint-Jean-Baptiste. C'est le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui organise deux forums publics sur les enjeux liés à l'aménagement urbain en mai. Le premier, c'est jeudi le 12 à 19h. Et le but, en fait, c'est d'alimenter la réflexion et de nourrir l'action pour améliorer les conditions de vie des résidents du quartier Saint-Jean-Baptiste. Donc, c'est au 755 rue Saint-Jean, c'est gratuit. De quoi c'est qu'ils vont parler? Donc, jeudi le 12 mai, c'est sur le thème Saint-Jean-Baptiste à l'heure de la mobilité durable. S'il y a un mot fourre-tout ces temps-ci, c'est bien ça. Alors, automobile, transport actif, transport en commun, comment est-ce qu'on peut sortir du statu quo pour améliorer la qualité de vie? Il va y avoir un panel, puis après c'est une discussion avec la salle. Donc, il y a Xavier Mercier-Mété du groupe Accès Transport Viable, Valérie Borde, qui est chroniqueuse scientifique à l'actualité, mais qui est aussi surtout militante d'Action d'Aiguillon, et Boris Merixé du Comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui vont débattre avec les gens sur l'équilibre entre les différents modes de transport qui est fragile dans Saint-Jean-Baptiste, sur la domination de l'automobile, puis comment est-ce qu'on peut repenser la place de la voiture, des transports actifs, du transport en commun au centre-ville. C'est quoi les problèmes auxquels on fait face? Quelles solutions on peut mettre de l'avant pour améliorer la qualité de vie dans Saint-Jean-Baptiste? Donc, ça va être intéressant, je pense. Puis, il va y avoir un autre forum le 26 mai, je vous en parlerai en temps et lieu, mais ça va être sur le thème « Vivre au centre-ville ». Oui, mais lequel?
Sinon, on parle aussi des t-shirts qu'on vient de recevoir.
Oui, on a reçu des super beaux t-shirts. Alors, c'est marqué dessus « Les temps changent, Sequoia reste ». Et c'est dans un magnifique ton de rouge, noir et blanc.
Et vous pouvez vous les procurer à Sequoia, 600 Côte-d'Abraham. Vous avez vu ça passer. Mais appelez avant, des fois, il n'y a pas de permanents qui sont à la station. Donc, assurez-vous qu'il y a des gens qui peuvent vous vendre le dit t-shirt.
Donc, appelez à quel numéro de téléphone?
529-9026.
Et le t-shirt, coûte combien? 20$.
Ouais. En tout cas, on va en reparler. Mais si vous êtes membre, peut-être qu'on va faire un prix, qui sait?
C'est ça. Donc, bref, on a besoin de vos sous. Les t-shirts sont beaux. On vous invite à en ramasser un. Et voilà, c'est ce qui m'a fait à cette édition de Voix de Fait. Vous étiez en compagnie de Nicolas.
Jeannie.
Et François, Voix de Fait avec un xes.blogspot.com.